Alors, bienvenue chez Mola et merci à la librairie Mola de permettre à cette rencontre d'avoir lieu. Moi, je suis Valentine Cohen et je m'occupe beaucoup de la compagnie Matamalam, qui est une compagnie de théâtre, de chant, de vidéo. Et je vais d'abord présenter Peggy Martineau, qui est aussi comédienne au sein de la compagnie. Nous jouons ensemble dans Que ta volonté soit faite, qui est une pièce qui a été, qu'on a adaptée d'après Eti Ilsoum, d'après les écrits d'Eti Ilsoum. Et on est tout à fait ravis de recevoir Jean-Michel Hirt, qui donc a écrit La dignité humaine sous le regard d'Eti Ilsoum et de Sigmund Freud, et où, par rapport à nous, en tout cas, la façon dont on est entré en relation avec Eti, il y a énormément d'échos et de résonances avec ce qu'on a lu dans le livre de Jean-Michel. Et donc, c'est parfait qu'on puisse être ensemble là pour, d'une part, présenter le livre, et puis également, évidemment, parler d'Eti et de tout le travail autour qu'on mène.
Tu veux que je t'interrompe? Ouais. Bon, je vous remercie donc de m'accueillir pour parler d'Eti Ilsoum. Et il faut dire que je ne peux que vous encourager à aller voir la pièce qui a été construite, conçue, inventée à partir des écrits d'Eti. Et qui est vraiment très belle. J'ai eu l'occasion de la voir récemment et par chance, elle va à nouveau se produire ici dans quelques jours, le 10.
Oui, une semaine. Oui.
C'est ça. Et donc, c'est une rencontre avec Valentine, avec Peggy, qui s'est faite... précisément parce que nous avons eu cette même passion de façon différente, à chacun son métier, pour cette jeune femme absolument incroyable, non seulement unique comme chacun de nous, mais incroyable. Incroyable parce que c'est une personne qui, pour le psychanalyste que je suis, offre. Et ça, il n'y a pas d'autre exemple, à ma connaissance. Elle offre la possibilité de se représenter ce qu'a pu signifier la violence faite par les nazis aux juifs hollandais d'Amsterdam, précisément, mais à tous les juifs hollandais, bien sûr, dans une période courte, quelques années, depuis l'occupation par les nazis jusqu'à son internement dans un camp qui était réservé aux juifs dans un premier temps et qui était un camp pour ceux et celles qui allaient ensuite être exterminés à Auschwitz, dont Eti Ilsoum, qui n'avait pas encore 30 ans. Et Eti, pendant 3 ans à peu près, va écrire un journal qui est aujourd'hui entièrement publié. Il y a eu un certain nombre d'extraits qui ont été présentés sous des titres, notamment Une vie bouleversée, et puis il y a eu ces lettres aussi de ce camp d'internement avant Auschwitz. Et dans ces écrits, vous trouvez le récit de ce que signifie résister. Résister à l'oppression, résister au malheur, résister les yeux ouverts à la mort qui s'avance et qu'elle voit. Elle ne s'aveugle pas une seule minute et elle se rend compte que pour elle et que pour les siens, c'est la mort qui est au bout des rails, peut-on dire. À ce moment-là, et c'est là où la psychanalyse intervient, à ce moment-là, dans cette période très courte, ces 3 ans, elle va commencer un travail psychanalytique, psychothérapeutique. On ne peut pas exactement à cette époque-là fixer les choses comme on le pourrait aujourd'hui. Les thérapeutes, les psychanalystes sont des gens qui, dans ces années 30, commencent à exercer. Hein. Freud est encore vivant pour quelques années encore. Il va mourir en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Lui-même va subir l'oppression nazie à Vienne et va partir grâce à ceux et surtout à celle qui va bien vouloir lui permettre financièrement de payer sa caution aux nazis, hein, la princesse Marie Bonaparte, hein, qui va lui permettre de s'exiler, de quitter Vienne en l'achetant littéralement à ses geôliers. Et toute la famille va se retrouver finalement en Angleterre où il va mourir. Etty, elle, dans cette période des années 39, 40, 41, va décider de travailler sur ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'elle va considérer que sa vie ne se résume pas à l'oppression historique qu'elle est en train de subir et que sa vie, à elle, personnelle, ses rêves, ses désirs, ses amitiés, sa vie amoureuse surtout, ça importe beaucoup, même dans cette période, alors même qu'elle pourrait, comme d'autres, être aux abois, pas du tout. Elle décide de continuer de vivre et même de mieux vivre, ce qui est déjà un courage assez étonnant. Et elle va entreprendre une thérapie psychanalytique, appelons-la comme ça, avec un homme sûrement hors du commun qui s'appelait Speer. Et cet homme et elle vont entrer dans une relation à la fois thérapeutique, certes, mais aussi une relation d'échange intellectuel et d'échange affectif. Elle va connaître une passion intense pour cet homme. On pourrait parler évidemment de transfert, hein, ce qui n'a rien d'inhabituel dans un cadre thérapeutique. Mais il s'agit aussi pour elle et pour lui de mesurer combien la connaissance de notre vie psychique peut nous permettre de vivre l'enfer, puisque c'est peut-être pas encore l'enfer d'Auschwitz, mais c'est le préambule de l'enfer. Il faut s'imaginer Amsterdam de plus en plus refermé sur les Juifs, comme une tenaille, hein, avec peu à peu des interdictions de circuler, de sortir, d'acheter librement chez les commerçants. Bref, un mouvement de ghettoisation en attendant leur extermination et leur rassemblement dans ces camps, ce fameux camp justement Hollande de Westerbork, où elle va passer les derniers mois de son existence. Donc, Etty fait le choix, il fait même le pari avec son thérapeute de miser, de prendre en compte sa vie intérieure, ce qu'on pourrait appeler sa vie intérieure, mais nous, psychanalystes, nous ne reprendrons pas exactement ce terme parce qu'il nous semble un peu trop connoté, hein, certes romantique, et pourquoi pas, mais peut-être un peu imprécis par rapport à ce qui nous occupe et que nous nommons, après Freud, la réalité psychique. Pour Freud, pour la psychanalyse, l'homme n'est pas maître de lui-même comme de l'univers. C'est une illusion que nous pouvons avoir, que nous pouvons encore avoir même, mais ça n'est qu'une illusion. En fait, nous sommes doubles, nous sommes deux, il y a en chacun de nous cette réalité psychique Et puis, il y a à l'extérieur de nous la réalité matérielle, la réalité à laquelle nous avons affaire, évidemment, quotidiennement. Nous ne pouvons pas nous séparer de cette réalité extérieure, sauf à nous enfermer éventuellement dans la folie, mais ça n'est même pas un choix. Et c'est très dommageable lorsque nous nous coupons de notre réalité intérieure, de notre réalité psychique. Par contre, ce que nous pouvons espérer, c'est parvenir à une forme d'alliance entre réalité psychique et réalité matérielle extérieure qui nous permette d'être sur nos deux jambes et d'être dans ces deux réalités que nous habitons. Alors, évidemment, il s'agit de voir comment nous les habitons. Et très souvent, on constate, lorsqu'on s'occupe justement de patients, voire de malades en psychiatrie, que la difficulté pour eux, c'est de vivre, par exemple, dans la réalité extérieure, à cause de cette réalité psychique qui les encombre, hein, qui prend trop de place, qui cause des inhibitions, par exemple, ou toutes sortes de difficultés qui les empêchent d'aimer. Donc, c'est là qu'intervient la psychanalyse, qui leur permet de prendre la mesure de leur réalité psychique pour mieux affronter la réalité matérielle et ses exigences. Freud n'avait pas trop d'illusions lui-même hein, quand il disait que le résultat d'une psychanalyse, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose finalement d'assez humble. Il s'agit de permettre à un individu d'aimer et de travailler. Bon, c'est relativement limité, mais c'est déjà pas si mal quand on y arrive. Donc ça, c'est l'enjeu de Etty, qui, lorsqu'elle rencontre Speer, et c'est la première lettre, d'ailleurs, des écrits, hein, je crois qu'on peut regarder cela, ou même vous pouvez peut-être lire quelques extraits de son désarroi, hein, de cette, oui, de cette lettre initiale qu'elle écrit à son thérapeute après l'avoir vue une première fois et qui est une lettre qui vous donne bien son état d'esprit à ce moment-là.
Et il y a une chose, 41. Ouais, mais c'est surtout un 8 mars. Je trouve que c'est quand même assez beau pour Etty d'avoir commencé cette écriture à S le 8 mars, comme un écho jusqu'à nous. Cher monsieur S, à l'instant, je viens de vous écrire toute une histoire, mais je crois que je vais vous en faire grâce. Maintenant, à la relecture, elle me fait déjà sourire. Tout cela est d'un ton si pathétique et si important. Et tandis que je suis assise ici tout tranquillement à mon bon vieux bureau et que grâce à vos beaux exercices, le sang recommence à couler avec vivacité dans mes veines, j'en aurais presque envie de me passer la main dans les cheveux avec une douceur toute maternelle en me disant « Allons petite, tout va rentrer dans l'ordre sans tarder. Il faut simplement éviter de te prendre trop au sérieux, toi, tes sentiments et tes pensées. À vrai dire, tu devrais avoir un peu honte. Vous savez, hier, quand je ne pouvais rien faire d'autre que vous fixer d'un air bête, il y avait là en moi une telle collision de pensées et de sentiments contradictoires que je me sentais complètement foudroyée et que j'en aurais hurlé si je m'étais encore un peu moins bien dominée. C'était de forts sentiments érotiques pour vous que je croyais avoir déjà surmonté en moi et en même temps une forte aversion à votre égard et c'était aussi tout à coup un sentiment infini de solitude. Un pressentiment que la vie est terriblement difficile et que l'on doit faire tout seul et qu'une aide extérieure est absolument exclue. Et puis de l'incertitude, de l'angoisse. Il y avait de tout cela. Et tout d'un coup, ce petit morceau de chaos me regardait fixement du plus profond de mon âme. Et quand, en vous quittant, j'ai repris ma bicyclette pour rentrer chez moi. J'aurais bien voulu me faire écraser par une voiture et je pensais « Il faut croire que je suis folle comme le reste de ma famille. » Une pensée qui me vient toujours lorsque je me sens désespérée pour une raison ou pour une autre. Mais à présent, je sais de nouveau que je ne suis pas folle et que j'ai seulement beaucoup de travail à faire sur moi-même pour devenir adulte et un être humain à part entière. Et vous allez m'y aider ? Voilà. Je vous ai tout de même écrit quelques mots. Cela m'a donné beaucoup de mal. J'ai énormément de réticence à écrire. Je me sens toujours tellement inhibée et peu sûre de moi. Et moi qui voudrais plus tard être écrivain. Vous vous rendez compte ? Cher monsieur S, au revoir. Et merci de tout le bien que vous m'avez déjà fait. Eti Ilsoum.
Vous avez entendu là, non seulement sa voix, grâce à Valentine, mais aussi la présence de cette femme qui n'hésite pas à écrire après une première entrevue à son thérapeute et qui parle de l'essentiel. Elle parle de ce chaos qui est en elle, elle parle de cette inhibition qui est aussi en elle et qui l'empêche de devenir ce qu'elle va devenir au fil de ses écrits, puisque là, nous sommes à la première page des écrits. Vous voyez, c'est quand même un gros volume qui implique tous les cahiers qui vont suivre et qui vont constituer justement une œuvre, l'œuvre d'Eti Ilsoum, qui est à la fois son roman, au sens le plus fort du terme, hein, c'est-à-dire le roman de quelqu'un qui engage toute sa vie dans son écriture. C'est aussi, comme je vous le disais au début, un document clinique exceptionnel, parce que personne à cette époque-là n'a raconté une cure analytique, thérapeutique, dans une période aussi insensée et aussi innommable. Et c'est aussi une adresse à tous les humains.
Je peux t'interrompre ?
Mais bien sûr, c'est même nécessaire.
Bon, parce qu'il y a un autre livre qui est quand même vraiment magnifique. Bon, c'est pas ça, mais c'est... Je voudrais qu'on lise un passage de M. Hirt, voilà. Et c'est ce qui termine le livre, mais je trouve que c'est d'une grande ouverture et on avait envie de vous le faire partager aussi en début, en fait.
Puis comme on vient de lire les premiers mots d'Eti Ilsoum, on va lire les derniers mots de Jean-Michel Hirt. Avant les prochains, bien sûr.
En fait, il a intitulé « Lettre à une jeune femme qui a réussi sa révolution psychique ».
Ça commence par les mots d'Eti. « Je sais fort bien à quoi je dois m'opposer. Ne pourrait-on apprendre aux gens qu'il est possible de travailler à sa vie intérieure, à la reconquête de la paix en soi, à continuer à avoir une vie intérieure productive et confiante, en passant par-dessus la tête des angoisses et des rumeurs qui vous assaillent. Ça, c'est le 29 septembre 1942.
Cette lettre, Eti, à toi destinée, sera un peu plus longue que ta dernière carte jetée au vent, depuis le wagon qui t'emportait vers le camp d'Auschwitz. Ton geste témoigne encore de ta confiance en l'être humain, en l'autre humain. Quelqu'un la trouverait. Elle parviendrait à son destinataire, elle serait lue. Et c'est arrivé ainsi. Tes écrits, comme des lettres ouvertes, continuent de nous parvenir, plus que jamais, partout où des hommes se souviennent du lieu de l'humain en eux. Nous sommes nombreux maintenant de par le monde. C'est presque devenu un destin de pouvoir dire après toi, dans cette carte adressée à chacun de nous, le Seigneur est ma chambre haute. Cette citation que tu aurais trouvée en ouvrant la Bible au hasard et que personne n'a jamais pu exactement replacer dans le contexte d'un psaume précis. Cette Bible dans laquelle tu te glissais ou ce Coran que tu gardais dans une petite mallette en rotin. Une parole sainte qui ne valait d'abord que pour toi. Née du Seigneur contemplé en toi. Jeune reine Esther, assise sur ton sac à dos au milieu d'un wagon de marchandises bondées. Mais bondés d'êtres humains, tous déportés parce que juifs. Eux, les premiers dépositaires de cette révélation qui donnait une consistance à l'espèce humaine et énonçait sa dignité, eux plus maltraités que des marchandises sans valeur. C'est la face obscure du destin de masse, celle que tu as accepté de reconnaître, avant de nous léguer ta version rayonnante, la seule qui fasse pour nous autorité. Celle que très tôt, le 24 mars 1941, tu évoques dans ton journal.
Hans Dupuis me disait un jour sur les marches de l'université, « Oui, toi, tu es une de ces personnalités radieuses. Et je crois que je pourrais l'être et donner à d'autres un peu de force dans la vie et être vraiment heureuse. Car cela aussi, c'est une prouesse. Être vraiment, intimement heureux. Accepter le monde de Dieu et en jouir, sans en être détourné par toute la souffrance qu'il contient. »
Dans ce qui vient d'être lu, vous avez entendu un terme central pour la compréhension d'Etilsum, de sa pensée, car il s'agit d'une pensée qui est une lente élaboration sur très peu d'années, mais avec une vitesse fulgurante, peut-être parce que les événements extérieurs lui donnaient cette accélération. Le terme important, c'est « destin de masse ». En allemand, c'est « Massenschicksal ». Et « destin de masse », c'est ce qu'elle découvre, le destin de masse, c'est ce qu'elle découvre en réalisant de plus en plus, au fil des mois, qu'elle ne cherchera pas à échapper à ce qui se profile, c'est-à-dire à sa destruction et à la destruction, l'extermination des Juifs d'Europe, qu'elle acceptera ce destin de masse, lucidement. Mais en même temps, en nous parlant d'un destin de masse, elle nous désigne une situation à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Nous faisons partie de masse, que nous voulions ou non. Nous sommes pris dans la masse. Et la question qui vient tout de suite après, c'est comment est-ce que nous entrons en relation avec la masse et quelle est l'influence de la masse sur nous, ou de ces masses. Et là, tout de suite, en parlant ainsi, je rejoins un thème qui est très important dans la pensée de Freud, qui est l'interaction entre la vie psychique personnelle, individuelle, et la vie psychique collective, à l'intérieur d'une société, donc à l'intérieur de différentes masses auxquelles nous pouvons appartenir. Et c'est un travail que Freud va notamment développer dans Psychologie des masses et analyse du moi, où il va étudier de façon quasi prémonitoire ce que signifie l'homme providentiel, le Führer, le chef, par rapport à la masse qui va le suivre et éventuellement le suivre jusqu'à la mort. Quel est ce mouvement qui a pu précipiter un peuple aussi sophistiqué et développé au sens culturel que l'Allemagne dans cette folie meurtrière qui n'avait pas de précédent dans l'histoire et qui s'appelle notamment, outre la guerre mondiale, la Shoah, c'est-à-dire cette destruction systématique du peuple juif par tous les moyens techniques qui ont pu être mis en œuvre. Donc, elle va, s'emparant de ce mot, destin de masse, elle va, avec ce mot, essayer de penser quelles sont les relations entre ce destin de masse et le destin singulier de chacun. Elle ne va en aucun cas considérer que l'individu doit disparaître dans la masse. Bien au contraire, l'individu, de même qu'il est en conflit à l'intérieur de lui-même, parce que ces deux réalités, la réalité extérieure et la réalité intérieure, sont des réalités qui entrent en conflit. De même, cette jeune femme est en conflit avec son destin singulier, est en conflit avec ce destin de masse qui lui est imposé. Donc il s'agit de voir comment de vivre à l'intérieur d'une situation extrême, bien sûr, mais qui, finalement, n'est que l'exacerbation de ce que nous connaissons tous les jours. Hein. Combien de fois nous sommes pris, poussés, malmenés par la masse dans laquelle nous sommes impliqués. Ce qu'elle découvre aussi chemin faisant, ce qu'elle redécouvre, hein, ce qu'elle confirme par son vécu, et c'est là aussi toute la valeur de ce document clinique que constituent ses écrits, c'est que l'être humain n'est pas exactement charmant, sympathique et dévoué à son prochain. Certes, il ne s'agit pas du tout de le diaboliser, l'être humain. L'être humain peut être charmant, mais il peut être aussi impitoyable, féroce et d'une sauvagerie qui est la sauvagerie, justement, que Freud, la sauvagerie pulsionnelle que Freud avait dégagée tout au long de ses écrits. Hein. Freud a beaucoup insisté, et c'est aussi ça qui a fait scandale, sur le fait qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a de la barbarie, il y a de la sauvagerie, il y a justement ce mouvement pulsionnel dans notre réalité psychique qui est un mouvement cannibalique, meurtrier, et qui est un mouvement qui ne peut pas ne pas être pris en compte si on veut justement se civiliser. S'il s'agit de mettre un couvercle sur la force des pulsions, vous imaginez bien la suite, et justement, l'Allemagne nazie le prouve ô combien, à force d'écraser les tensions et les agressivités, eh bien, ces tensions et ces agressivités vont se décharger sur le premier venu. C'est aussi, bien sûr, le phénomène du bouc émissaire. Bon. Il se trouve donc que le mieux que l'on puisse faire avec ces pulsions destructrices qui nous habitent, c'est non seulement de les connaître, mais en plus, éventuellement, d'en faire un bon usage. Parce que la destruction n'est pas mauvaise en soi. La destruction peut être très utile. Pensez par exemple à la création artistique. Pour qu'il y ait création artistique, il faut qu'il y ait non seulement l'audace du créateur, mais aussi la capacité pour ce créateur de se détacher du passé, donc d'une certaine façon de le renier, voire de le détruire, pour inventer autre chose. Il y a donc une violence qui est à l'œuvre, et la violence n'est pas mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Vous voulez m'arrêter ?
Oui.
Moi, ça, pardon, je fais une petite parenthèse, mais ça me fait penser, Jean-Michel, quand tu parles du fait que Katie réalise aussi que cette sauvagerie, elle le réalise par un autre biais, finalement. Mais elle est aussi en nous et aussi en elle. Ça me fait penser à un moment donné où elle entend à l'extérieur, autour d'elle, dire on devrait les noyer, cette sale race d'Allemands, les détruire jusqu'au dernier, quand elle entend ce qui est en train de se mettre en place. Et elle dit cette phrase que j'aime particulièrement. Elle dit il suffirait d'un seul homme digne de ce nom pour que l'on eût pu croire en l'homme, en l'humanité. Et je trouve que ça fait écho à ce que tu disais.
Tout à fait.
Et juste aussi,
il y a
un petit passage aussi, où, juste par rapport au contexte, en fait, où elle arrive à cette idée de fatalité de masse, justement. Et donc, ça, on va juste vous le dire. Nous n'avons plus le droit de nous promener sur le Wendelweg. Le moindre groupe de deux ou trois arbres a été rebaptisé bois et porte un écriteau interdit aux Juifs. On en voit fleurir partout de ces pancartes.
Et pourtant, il reste bien assez de place où vivre dans la joie, faire de la musique ensemble et s'aimer. Chacun en ce moment est occupé à songer à soi-même et à tenter de passer à travers les mailles du filet. Or, c'est un nombre élevé qui doit partir, très élevé même. Et le plus bizarre, c'est que je ne me sens pas sous leurs griffes, que je reste ici, ou que je sois déporté. Et c'est singulièrement se surestimer que de se croire trop de valeur pour partager avec les autres une fatalité de masse. Yendo, yendo, yendo.
Et aussi, par rapport à... Il y a un autre passage de Jean-Michel qu'il faut qu'on lise.
Et là, vous avez entendu un passage de la pièce que j'espère vous irez voir et entendre.
Il y a d'autres points communs entre la période de l'histoire... Tu veux pas te lire ?
Non, je veux pas me lire.
Il y a d'autres points communs entre la période de l'histoire qu'Eti Hilsum a traversée et la nôtre au XXIe siècle, dans cette Europe capitaliste et démocratique, économiquement, sinon socialement développée, mais rongée par des crises multiples et spirituellement tétanisée. Beaucoup de lecteurs d'Eti sont, comme elle l'a été, confrontés à un chaos au-dedans d'eux-mêmes. Ils se dévalorisent ou s'idolâtrent. Ils ne parviennent plus à être seuls. Ils ne se reconnaissent plus dans les préceptes des religions établies. Privés de repères et de symboles, ils aspirent, à travers leur désordre corporel ou mental, à exprimer leur spiritualité ou à renouer avec une vie intérieure. Nombreux sont la proie de conflits de destin, déchirés entre leur fidélité à eux-mêmes et les injonctions de leur groupe social ou de leur communauté d'origine. Beaucoup partagent avec cette singulière jeune femme son appétit enjoué pour l'amour sexuel, son goût intense de lire et sa volonté ardente de connaître sa vie psychique. Or, ni l'attention portée à la vie amoureuse, ni la fréquentation de la littérature, ni la pratique de la psychanalyse ne sont aujourd'hui reconnues comme des activités d'une grande importance. Réduire l'amour à l'exercice compulsif de la sexualité, la littérature à la consommation de produits médiatiques, la psychanalyse à la caricature de ses détracteurs professionnels, c'est devenu aussi banal que d'être suspendu à son portable dans une interminable file d'attente.
Comment la conception scientifique du monde associée à la conception mercantile de la personne ont-elles une influence sur la psychologie de ces masses dont nous ne pouvons manquer de faire partie ? Comment résister à l'emprise des masses sur l'esprit ? Comment refuser de croire aux représentations économiques qui s'imposent comme un mythe, transformant chacun en produit animé de masse ? Comment construire l'humain en chaque homme, rien n'étant acquis à cet égard par la seule appartenance à l'espèce humaine ? Comment l'exploitation inexorable de la nature et de ses semblables par l'homme, son anthropocentrisme conquérant, l'ont-ils conduit dans les impasses d'une civilisation planétaire à bout de souffle, le contraignant peu à peu à s'interroger sur ce qu'en chemin il a oublié de l'humain. Voici quelques-unes des questions suggérées par l'expérience d'une femme, Eti Hilsum, lentement conduite au bord de l'abîme, les yeux grands ouverts, avant d'y être précipitée. Le journal de sa courte vie égrène les innombrables violences liées à la négation de l'homme par l'homme, portée à son paroxysme par le nazisme.
Et en fait, cette série de questions, moi, me fait penser à Eti quand, alors qu'elle est vraiment au sein du chaos, on va sur cette nuit. Cette nuit, je vais habiller des bébés et tenter de calmer des mères. Et c'est cela que j'appelle porter secours. Je pourrais me maudire. Nous savons très bien que nous abandonnons nos pensionnaires au froid, à la chaleur, au dénuement, à l'extermination. Et nous les habillons nous-mêmes. Et nous les conduisons nous-mêmes jusqu'aux wagons à bestiaux.
Mais que se passe-t-il donc ? Quelles sont ces énigmes ? De quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers ? Nous ne pouvons nous tirer de ces contradictions en disant que nous sommes tous lâches. Nous ne sommes pas si mauvais. Nous nous trouvons ici, en face de questions plus profondes.
Et vraiment, enfin moi, il y a une chose qui me touche beaucoup dans le livre de Jean-Michel et dans l'écho, parce que c'est aussi ce qu'on a essayé de tenter de faire à travers le travail spectaculaire, c'est qu'il y ait le pont, que ça s'enracine de son côté à elle et d'une autre aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois qu'au début, quand on a créé le spectacle, on n'osait même pas dire ce que tu dis dans ton livre. Moi, je le pensais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce... Il y a un assassinat de la pensée aujourd'hui. Hein. Il y a un assassinat, un rapt de beaucoup de choses de l'humain, mais qui se fait de façon tellement lobotomisée, botoxée, jolie, souriant, qu'on le ressent. On le ressent, mais on ne le sait pas. Enfin, je veux dire, si, on est beaucoup aussi à le sentir et à commencer à le savoir, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui se démènent là-dedans, dans quelque chose qu'ils subissent, comme justement quelque chose de complètement collectif, et comme s'il y avait un arrachement de la conscience. Et c'est ce qui se passait vraiment à ce moment-là, le fait que le nom n'existait plus à ce moment-là, que ce soit des numéros, le fait qu'il n'y ait plus de visages, mais simplement des visages tout à fait formatés. Une des comédiennes nous racontait qu'à Los Angeles, elle se disait tout le temps « mais je l'ai vue cette fille quelque part ». Non, c'est juste qu'elles avaient toutes le même visage. Donc voilà, il y a des échos comme ça d'assassinat de l'humain, qui, même si ce n'est pas comparable, ça doit quand même être mis en relation avec aujourd'hui, semble-t-il.
Oui, vous l'aurez compris, ce qui est aussi tout à fait surprenant et bouleversant dans la réflexion que mène Etty en liaison avec son travail sur elle-même, c'est qu'elle s'interroge sur l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain ? Et elle rejoint là l'interrogation de Freud, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de confondre l'homme et l'humain. Que l'humain, c'est aussi une dimension qui est peut-être en attente, qui n'est peut-être pas encore advenue. Par contre, l'inhumain, ça, c'est aussi une dimension de l'homme. Autrement dit, il y a à l'intérieur de cet homme de l'humain et de l'inhumain. Et là aussi, on retrouve bien sûr un thème de la pensée freudienne, hein, c'est-à-dire que les choses sont toujours duelles. Hein. L'humain et l'inhumain luttent à l'intérieur de l'homme. Freud pourra aussi le dire avec d'autres termes, en utilisant les dieux grecs. Hein. Eros, le dieu de la vie, Thanatos, le dieu de la mort, sont en conflit permanent. Hein. Et personne ne peut dire qui va gagner. Seulement, on en sait un petit peu plus aujourd'hui, hein. Précisément sur ce combat que Freud nomme un combat éternel entre Eros et Thanatos. Précisément à cause de la Shoah, précisément à cause des camps, et là, j'ai en tête tous les camps, hein, les camps de la mort, bien sûr, mais les camps du Goulag, hein, ou les camps au Cambodge, enfin, tous les camps génocidaires du XXe siècle, hein, qui peut être considéré comme le siècle des camps. Hein. Il y a des siècles où l'on pouvait considérer que les cathédrales étaient le symbole de ce siècle, hein, 12e siècle, par exemple. Bon, au XXe siècle, le symbole qui restera, c'est le camp, où des hommes, des femmes vivent, survivent et meurent surtout, plus ou moins rapidement, très rapidement dans les camps de la mort, un peu plus longuement dans les camps soviétiques. Mais qu'est-ce que prouvent les camps ? C'est que, contre toute attente, il est possible pour des hommes de vivre sous l'emprise de Thanatos, sous l'emprise de la pulsion de mort, infligé par d'autres hommes, bien sûr. Et vivre dans ces conditions-là, ça ne s'appelle pas vivre, mais ça s'est passé. Et il y a des témoignages de ça. Justement, là, en venant de Paris, je lisais Charlotte Delbault, qui est une femme qui est revenue d'Auschwitz, et dont je vous conseille, bien sûr, la lecture. Hein. Elle a écrit trois ouvrages, hein. Pas à vous donner le titre, trois ouvrages qui sont parus chez Minuit, Aucun de nous ne reviendra, une connaissance inutile, le deuxième, et mesure de nos jours, le troisième, et c'est une écriture en plus tout à fait impressionnante. Mais il y en a tant d'autres. Il y a Primo Levi, bien sûr, et puis tous ceux que l'on pourrait nommer, que l'on devrait nommer, qui ont écrit. Comment on en revient, comment on est un survivant, et comment il est difficile de transmettre ce qui est une expérience inhumaine à ceux qui ne l'ont pas connu, mais qui pourraient très bien connaître ça. C'est tout à fait étonnant de voir comment Etty, mais aussi Charlotte Delbault, évoque le rassemblement de ces gens qui viennent de tous les coins d'Europe et qui ne savent pas ce qui les attend, qui sont poussés dans les wagons, qui ignorent tout de leur destination et qui sont là hébétés, littéralement. Bien sûr, cela s'est produit dans tous ces camps, que ce soit la rafle du Veldiv ou d'autres, tous ces camps où les gens étaient là à ne pas savoir ce que l'on allait leur faire subir. Et donc, avec cette question, qu'est-ce que l'humain ? Nous sommes conviés à nous demander comment faire avec notre inhumanité. Nous sentons bien qu'il y a de la démesure en chacun de nous et que cette démesure, elle n'a presque aucune limite, surtout à certaines époques qui peuvent l'encourager, comme par exemple à cette époque terrible des camps et des dictatures totalitaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'inhumanité en groupe qui sont devant nous, qui nous menacent ? Je crois que la question mérite d'être posée, surtout dans cette période extrêmement difficile pour nous, Européens. Une autre dimension de ce à quoi Etty nous convie, c'est une réflexion sur l'amour. Sur l'amour sexuel, sur l'amour charnel et sur la valeur de l'amour, non seulement dans le cadre de cet échange transférentiel qui se met en place avec Speer, avec son thérapeute, mais plus largement. Qu'est-ce que ça signifie aimer ? Qu'est-ce que ça signifie ce mot si galvaudé qui peut être mis à toutes les sauces, mais qui en même temps est un mot dont nous ne pouvons pas nous passer et qui demande à chaque fois d'être redéfini par chacun. Et ce qui est tout à fait impressionnant dans son écriture, c'est de voir qu'elle met l'accent sur quelque chose qui n'a pas encore été nommé par les psychanalystes, à savoir la dimension féminine de l'amour. Les psychanalystes, Freud bien sûr, cette première période de la psychanalyse qui va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Freud et quelques autres, Ferenczi, tout premier lieu, ont mis l'accent sur le fait qu'il y a une différence des sexes et une différence qui ne doit vraiment pas être minimisée, qui doit être au contraire cultivée et prise en compte par chacun pour être un homme ou une femme. Or, dans cet esprit-là, Etty va réfléchir sur ce que signifie l'amour d'une femme pour un homme, et aussi l'amour féminin. Et là, elle anticipe des aspects de la vie psychique des femmes, que Lacan notamment, ce psychanalyste français qui a fait un travail considérable à partir de l'œuvre de Freud et à partir, bien sûr, de sa propre clinique sur une trentaine d'années, Lacan va mettre à jour ce qu'il va appeler la jouissance féminine. Une jouissance qu'il va distinguer du plaisir sexuel, que ce soit le plaisir sexuel des hommes et des femmes, dans la mesure où il va considérer que les femmes peuvent accéder à une jouissance supplémentaire, qu'il va appeler d'ailleurs une jouissance mystique. Et c'est là où je veux aussi en venir. Jouissance mystique, pourquoi ? Tout simplement parce que Lacan, qui à la différence de Freud, avait une éducation catholique, Lacan, plus tard, a pu lire avec profit les écrits des mystiques chrétiennes, catholiques, qui sont surtout des femmes. Pensez bien sûr à Thérèse d'Avila. Sur elle, Julia Kristeva a écrit un très beau livre, hein, cette psychanalyste que tout le monde connaît, je crois. Et bien sûr, vous pouvez penser aussi à tant d'autres, Angèle de Foligno, et tant d'autres femmes, Thérèse de Lisieux aussi bien d'ailleurs, qui sont des femmes qui ont laissé des traces écrites de leur expérience amoureuse. Elles sont dans une relation amoureuse avec le divin. Or, c'est ce que Eti va mettre au jour pour son propre compte. Et c'est là quelque chose de tout à fait essentiel, parce qu'elle va aboutir à une conjonction de la vie amoureuse et de la vie spirituelle. Elle va se rendre compte que sa vie amoureuse ne se résume pas et ne s'épuise pas avec l'amour qu'elle peut éprouver, notamment pour Speer ou pour d'autres hommes, parce que c'est une femme qui aime les hommes et qui aime l'amour avec les hommes. Elle va se rendre compte que cette vie amoureuse ne se réduit pas à l'objet d'amour, mais au contraire lui donne accès à une dimension en elle qui est une dimension qu'elle va nommer divine, et elle ne va pas hésiter d'ailleurs à entretenir une relation très explicite hein, dans ses écrits avec un Dieu, Dieu, ce mot Dieu qui est un mot aussi usé que le mot amour, ce Dieu qui serait en elle et avec qui elle parle. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout d'une expérience d'illuminer ou d'halluciner. Il s'agit de quelqu'un qui se rend compte que plus il entre en lui-même, elle entre en elle-même en l'occurrence, plus elle est confrontée à quelque chose qui la dépasse, à des forces qui sont considérables en elle-même et qu'elle met en relation avec le divin, avec ce que l'on appelle, ce qu'on appelait dans d'autres temps, dans des siècles religieux, le divin. Ce qui ne la rend pas pour autant religieuse. Hein. Elle est d'origine juive, mais elle n'est pas une juive qui va à la synagogue, et encore moins une chrétienne. Elle est quelqu'un qui veut retrouver quelque chose de l'expérience mystique en elle, qui est une expérience amoureuse. Et en cela, elle anticipe aussi quelqu'un d'autre qui n'est pas sans relation avec le psychanalyste Lacan, mais qui n'est pas un psychanalyste, qui s'appelait, lui aussi est mort, Georges Bataille. Georges Bataille, qui est un écrivain français qui a eu une influence tout à fait considérable hein, dans la dernière partie du XXe siècle hein, sur la littérature. Et Georges Bataille, qui a beaucoup écrit sur l'érotisme, avait cette parole admirable en disant « Je ne vois pas pourquoi, parce que je suis athée, je vous dis ça de mémoire, hein, je ne vois pas pourquoi, parce que je suis athée, je me priverai de la jouissance qu'ont éprouvée les mystiques qui ne l'étaient pas. » Autrement dit, il y a une expérience humaine là qui n'a aucune raison d'être confisquée par la religion, les religions ou les religieux. C'est une expérience humaine qui nous appartient. Mais il nous appartient aussi d'aller la retrouver, d'aller la chercher, et je dirais même de la conquérir. Alors, cela ouvre sur...
Je veux bien.
Attends. Ouais. Bon.
Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh une broutille. Je me garderai de suspendre au jour mauvais, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne peux rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mon Dieu, mais nous qui pouvons t'aider. Et en ce faisant,
nous pourrons peut-être aider ceux dont le cœur est martyrisé. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Il y a des gens, le croirait-on, qui au dernier moment tâchent à mettre en lieu sûr des aspirateurs ou des fourchettes en argent au lieu de te considérer toi, mon Dieu, au lieu de te protéger toi, mon Dieu. Ils disent « Moi, je ne tomberai pas sous leurs griffes ». Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne quand on est dans tes bras, mon Dieu. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme. J'en aurai beaucoup d'autres avec toi, dans un avenir proche, t'empêchant ainsi de me fuir. Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement. Mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi. Je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. Derrière la maison, la pluie et la tempête des derniers jours ont ravagé le jasmin. Ses fleurs blanches flottent éparpillées dans les flaques noires sur le toit plat du garage. Mais quelque part en moi, ce jasmin continue à fleurir, aussi exubérant, aussi tendre que par le passé. Et il répand ses effluves autour de ta demeure, mon Dieu. Tu vois comme je prends soin de toi. Je ne t'offre pas seulement mes larmes et mes tristes pressentiments. En ce dimanche matin venteux et grisâtre, je t'apporte même un jasmin odorant. Et je t'offrirai toutes les fleurs rencontrées sur mon chemin, et elles sont légion, crois-moi. Je veux te rendre ton séjour le plus agréable possible. Voilà. C'était pour l'amour de Dieu.
Oui, l'amour de Dieu qui est, vous l'aurez entendu et vous le comprendrez encore mieux en lisant Eti, l'amour d'elle-même. Mais cette dimension d'elle-même qui ne correspond pas simplement à son moi, qui est une dimension au-delà du moi, qu'elle trouve justement dans cette relation avec elle-même qui est liée à cette relation aussi, non seulement avec l'homme qu'elle aime, mais aussi avec les autres personnes qu'elle essaye d'aimer. Autrement dit, après la réflexion sur le destin de Mas, après cette réflexion sur la dimension spirituelle de l'amour sexuel, cet amour sexuel étant aussi un amour de soi-même, hein, c'est-à-dire qu'elle nous permet de lire de façon exactement comme lorsque l'on écoute des patients, hein, d'entendre comment aimer les autres suppose que l'on puisse s'aimer soi-même. Il n'est pas question de pouvoir aimer qui que ce soit si on ne s'aime pas soi. Et il est parfois extrêmement difficile de s'aimer soi. Et c'est là aussi une des raisons qui peuvent conduire à fréquenter un psychanalyste. Or, c'est aussi dans cet amour de soi, dans cette liaison entre l'amour de soi et l'amour des autres, qu'elle nous conduit, qu'elle nous fait cheminer de façon impressionnante. Et le troisième temps peut-être de cette passion de vivre, hein, qui l'anime, c'est le temps lié à l'écriture et à la lecture. Et il soumet une formidable lectrice, une femme qui écrit parce qu'elle lit et qui lit parce qu'elle écrit. Et on voit bien comment il y a un enchaînement entre ces deux dimensions du travail de l'esprit. Et comment il lui est nécessaire, dit-elle, il lui est même parfois plus nécessaire, alors même qu'elle connaît toutes les privations que vous pouvez imaginer, surtout bien sûr à la fin, dans ce camp de Westerbork où elle se retrouve enfermée en attente de son extermination. presque rien à manger, des milliers de gens qui n'ont pas de place, qui s'entassent sur ce bout de lande. Et elle a cette phrase, plutôt qu'un morceau de pain, j'ai besoin d'une ligne de poésie chaque jour. Une ligne de poésie, c'est tout à fait étonnant. Dans le dénuement le plus grand, et elle rejoint là aussi l'expérience de Primo Levi. Primo Levi, dans « Si c'est un homme », nous raconte à un moment donné, alors qu'il est enfermé, lui, à Auschwitz, qu'il réussit à se sauver parce qu'il a cette qualité de chimiste, ce métier, cette profession très intéressante pour les Allemands, qui réussissent à faire travailler leurs prisonniers, enfin, du moins tant qu'ils sont en vie. Et après, ils les utilisent autrement, et de quelle façon ? Primo Levi, à un moment donné, se promenant, si l'on peut parler de promenade, en tout cas cheminant entre deux travaux ou deux baraques, raconte à un autre prisonnier, à un autre déporté, comment il a réussi à se souvenir de quelques vers de Dante, de la Divine Comédie, lui italien, lui juif italien, et combien cette mémoire qui lui est revenue a illuminé sa journée. Or, il ne s'agit pas de négliger l'illumination d'une journée lorsqu'on est dans une situation aussi impitoyable. On tient heure après heure, jour après jour. Et là aussi, on voit combien la force de la vie culturelle, donc de la vie de l'esprit, non seulement nous anime, mais nous tient en vie. Et combien aussi il faut lutter contre toutes les tentations à l'intérieur d'une société pour abêtir, pour faire de la lecture un geste de pur divertissement, comme s'il n'y avait pas à se coltiner avec les œuvres et avec la pensée. Et d'ailleurs, la lutte, c'est très important dans la vie d'Eti, la lutte dans tous les sens du terme. Non seulement la lutte à l'intérieur d'elle-même, contre elle-même et pour elle-même, mais aussi la lutte physique. Car la caractéristique un peu étrange pour nous de la thérapie qu'elle engage avec Speer, qui est un thérapeute hors norme, c'est qu'il y a tout un contact physique, ce qui rappelle aussi certaines expériences qui existaient à l'époque, qui ont été abandonnées, du côté de chez Ferenczi notamment, où il y avait du corps, pas seulement de la parole, mais du corps dans le travail thérapeutique. Et là, on voit comment elle et son thérapeute peuvent se prendre à bras-le-corps, pas forcément pour faire l'amour, mais pour se toucher, pour se rendre compte de ce qui se joue dans cet échange corporel, charnel. Bien sûr, c'est une dimension exceptionnel du travail thérapeutique et qui ne peut se faire qu'au cas par cas. Mais bien entendu, le travail thérapeutique, c'est toujours au cas par cas. Là, il n'y a pas de destin de masse.
Ouais. Cette lutte dont tu parles, oui. Externe et interne, me fait penser du coup à un petit passage plutôt au début de son écriture. Je demande, enfin, cette façon de s'exhorter en fait soi-même et de se parler à soi-même et de se donner des forces et de parler aux différents visages en soi-même. Je ne mentir vraiment pas mal, ma foi. Je mentir. On aura un vase plein de cailloux blancs si cela continue. Mais pour le moment, je suis morte de sommeil. Une colonne monte, droite et forte, dans mon cœur. Je la sens, pour ainsi dire, s'élever et autour d'elle se regroupe tout le reste, moi-même, le monde, tout. Mais cette colonne produit une grande solidité intérieure. C'est d'une importance vraiment capitale pour moi. Je suis en contact avec moi-même. J'ai cessé de perdre mon équilibre à chaque instant ou de me précipiter d'un monde dans l'autre. J'ai cessé de lancer des regards ébahis du monde de l'esprit vers celui de la matière et inversement. Quelque chose est en train de se consolider en moi. Je commence à m'enraciner et j'ai cessé de flotter sans arrêt. Mais ce n'est que le fragile commencement d'un stade nouveau, plus mûr. Continue à te surveiller, ma petite. Mais je suis tout de même contente de toi. Tu ne t'en tires pas si mal, ma foi, tu t'en tires. Et maintenant, Dodo, Demain est un autre jour qui attend d'être rempli.
Et non, moi, c'était par rapport à la lutte aussi, en fait, par rapport à l'amour et par rapport au fait qu'elle commence pas par s'aimer du tout. Et c'est vraiment fondamental parce que c'est pas... Enfin, voilà, c'est... Même si elle, en spirale, elle grimpe autour d'elle-même pour arriver justement à une relation avec elle qui n'est pas elle, mais qui est elle quand même et qui arrive du coup à accéder à un amour qui la fonde et qui la traverse. Ouais. Du coup, c'est vraiment de haute lutte qu'elle obtient ces accès comme ça, ces clairières qui s'ouvrent devant elle, comme elle dit. Et ça me fait penser aussi vraiment à là, le effectivement, cette colonne qui se dresse au-delà d'elle-même et avec toute la symbolique que ça implique, mais aussi la réalité physique et psychique, et qu'elle lutte avec son thérapeute physiquement, c'est aussi vraiment pour comme engager des forces psychiques aussi, pas seulement... Enfin, c'est vraiment le fait que les deux soient liés comme ça et se marient au fur et à mesure, et au fond aussi, c'est un peu le travail qui est contagieux, je trouve, quand on la lit. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a profondément touchée à 23 ans quand j'ai découvert Etty, et où je me suis dit, ouh, si elle a pu, à ce moment-là, faire ce travail extraordinaire d'être humain, alors tout est possible. Et du coup, ça, alors que moi, j'étais dans mon mini chaos de 23 ans et de toute la bande que ça implique, etc., et de pouvoir avoir une sœur d'esprit qui... Dans un chaos absolu, là où c'était vraiment rien ne pouvait être mis en question du chaos qu'elle vivait, donner comme ça une orientation, c'était une aide très forte. Et ça me fait penser aussi à l'idée, à un moment, alors celui-là, je ne le sais plus trop par cœur et je ne sais pas où il est, mais c'est, elle parle, elle dit « Mon père a un âge assez avancé, à masquer ses incertitudes, ses peurs, ses doutes, derrière une attitude philosophique qui, bien que pour être parfaitement aimable, repose, bien que pour être parfaitement authentique, aimable, pleine d'humour et de subtilité, n'en demeure pas moins très vague. Sous cette philosophie qui excuse tout et ne voit que l'aspect anecdotique des choses sans les approfondir, alors qu'il a conscience de leur profondeur, ou plutôt peut-être parce qu'il a conscience de cette profondeur insondable et renonce d'avance à la tirer au clair, sous la surface de cette philosophie résignée et sceptique, après tout, qui sait, il y a tout de même la béance du chaos. Et c'est ce même chaos qui me menace. Auquel je dois m'arracher. J'y vois même l'œuvre de toute une vie et où je retombe sans cesse. Et à vrai dire, les moindres paroles de mon père, paroles de résignation, d'humour, de doute, font écho en moi à quelque chose que je partage avec lui, mais que je dois dépasser. Cohérence des générations. C'est à partir du chaos de mes parents, de leur refus de prendre position, que je dois maintenant me colter avec les choses, me former moi-même, sans cesser d'être assaillie par le sentiment de l'absurde. Ah, mes enfants, c'est la vie, etc. Je dois maintenant prendre bel et bien position. Quand ce rapport logique m'est apparu clairement, mes forces sont revenues. Et avec elles, l'amour. Et ces quelques heures d'effroi ont été surmontées. Et voilà, ça me fait penser à cette lutte constante où elle s'arrache, quoi. Enfin, c'est physique.
Oui, s'arracher est sûrement le terme le plus juste, car ce que tu viens de nous lire, Valentine, témoigne aussi de ce qu'elle doit s'arracher à un monde, hein. ce monde, justement, je dirais, du savoir universitaire, hein, ce monde de la philosophie, ce monde qui, certes, a pu produire des pensées admirables, mais qu'est-ce que devenaient ces pensées en temps de détresse, hein ? À quoi servait tout cela en temps de détresse, hein ? Et elle rejoint le mouvement de Freud, hein, car au fond, on peut toujours se demander pourquoi la psychanalyse surgit en 1900. Hein, eh bien, peut-être qu'un des éléments de réponse, c'est que déjà en 1900, et avec la montée des périls, hein, première, deuxième guerre mondiale, déjà, il y avait quelque chose qui était en péril dans la culture européenne et qui était perceptible pour un certain nombre d'esprits, et quelque chose qui signifiait que la philosophie, tout d'abord, la religion, ensuite, et puis toutes les œuvres de culture, ça ne faisait pas suffisamment le poids pour mettre à distance, tenir à distance, voire même éloigner de nous les forces de destruction qui sont en nous et qui sont à l'intérieur de la culture par là même, puisque la culture, c'est la culture des hommes, hein, des générations qui nous précèdent, bien sûr, et dont nous héritons. Hein. Il y avait donc une nécessité qu'apparaisse la psychanalyse, si l'on peut dire les choses de cette façon-là, parce que seul ce travail de recherche sur soi-même permet de prendre en compte cette destructivité qui est en nous, hein, de prendre en compte l'inhumain pour éventuellement aller au-delà, hein, et inventer l'humain. Et là, là aussi, elle a une capacité de pensée stupéfiante, est-il soume, dans la mesure où elle se rend compte que, au XXe siècle, a fortiori au XXIe, hein, ça ne s'est pas vraiment arrangé, autrement on le saurait, au XXe siècle, la question de l'homme, de l'espèce humaine, est devenue beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était auparavant, hein, à tel point que l'on peut considérer que l'homme n'est pas forcément humain. C'est ce que l'on a constaté justement avec toutes les horreurs du XXe siècle. Cet homme est capable de cette effroyable inhumanité qui peut prendre le dessus et qui peut le conduire aux pires extrémités. Donc cet homme n'est pas forcément humain. Il est inhumain par définition et accéder à son humanité, c'est une conquête. C'est une conquête qui est à la fois psychique et culturelle, hein, qui implique chacun et qui implique chacun qui est lui-même partie prenante de la culture, de la société qui est la sienne. Ce qui permet d'arriver à comprendre aussi pourquoi la dignité humaine prend une telle importance aujourd'hui. Ce concept de dignité humaine, il est apparu, et ça n'est pas un hasard, en 1948 de façon officielle. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle, donc la Déclaration de l'ONU, de tous les pays qui sont rassemblés dans l'ONU, que la dignité humaine est apparue nommément. Bien sûr, elle est apparue, cette dignité humaine, cette notion, ce concept, parce que il y avait eu la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Et bien sûr aussi la colonisation, enfin toute cette série de barbarie dont nous ne pouvons pas ne pas considérer que nous n'héritons pas. Donc la dignité humaine est devenue un véritable enjeu, certainement plus aujourd'hui que jamais. Et c'est aussi pour cela, apparaissant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'elle apparaît, qu'elle réapparaît aujourd'hui dans un certain nombre de textes juridiques, hein, parce que cette notion de dignité devient nécessaire pour affirmer quelque chose de l'humain. La dignité et l'humain ne peuvent qu'être ensemble et penser ensemble, surtout lorsque l'on sait combien l'inhumain peut balayer tout cela. Il y a donc quelque chose de tout à fait nouveau qui est à l'œuvre dans la pensée d'Etty, et ça n'est peut-être pas non plus un hasard si c'est une pensée de femme, hein, pas sûr que cette question de l'humain, les hommes soient les plus à même, après justement les preuves qu'ils ont pu donner au XXe siècle, de nous faire avancer un peu plus. Hein. Par contre, certainement, du côté des femmes et du côté du féminin, il y a là des avancées qui nous attendent et qui sont déjà à l'œuvre, justement, chez Charlotte Delbault, chez Etty Hillesum, chez Anne Frank, enfin, chez tant de femmes qui ont pu écrire dans ces périodes effroyables.
Chez Tenzin Palmo.
Oui.
C'est une femme extraordinaire aussi, une bouddhiste, qui dit qu'elle veut se réincarner en femme pour continuer le travail, justement.
Oui.
Dans ce sens-là.
Et ce sens de la dignité, qui s'inscrit dans le droit et qui prend une telle importance, notamment pour la Cour européenne des droits de l'homme, ça n'est pas un concept pour autant ferme. Il y a justement un autre, dans le droit actuel, un autre concept qui est celui de l'autonomie personnelle qui vient contrecarrer jusqu'à un certain point le concept de dignité, à tel point que d'ailleurs aujourd'hui des juristes peuvent poser ouvertement la question, parce qu'elle a été posée à la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce que le sadomasochisme est un droit de l'homme ? Ce qui est une question tout à fait nouvelle, mais tout à fait importante, hein, parce qu'elle prouve que nous sommes en travail par rapport à cette consistance, à cette définition de notre humanité. Or, ce que nous apporte Etty à cet égard, c'est aussi très présent dans le texte, le dernier travail de Freud, hein, le texte qui s'appelle « L'homme Moïse et la religion monothéiste », où Freud, en 1939, ce vieil homme qui a eu un impact considérable sur la culture, déjà à son époque et ensuite de son vivant, donc, et ensuite ô combien. Eh bien, cet homme, au soir de sa vie, avec le cancer qui l'accable, réfléchit en exil, puisqu'il a dû quitter l'Autriche, réfléchit sur qu'est-ce que pourrait signifier la dignité, à travers notamment, justement, à travers le personnage de Moïse, à travers ce que les religions ont pu apporter à cet égard. Parce que Freud, il ne s'agit pas de le considérer comme un athée ordinaire. Certes, Freud était athée, mais qui était passionné par les religions, et notamment par la sienne, hein, la religion de ses pères, hein, la religion juive. Et donc Freud a toujours réfléchi sur le monothéisme, qu'il soit juif ou chrétien, un peu moins musulman, encore qu'il y ait quelques indications précieuses, notamment dans ce dernier ouvrage là-dessus, sur l'islam. Mais Freud, dans ce dernier ouvrage, réfléchissant sur cette figure du père qu'incarne Moïse, hein, pour les Hébreux, figure ô combien éthique, éthique au sens où Moïse propose des valeurs à ce peuple, hein, leur propose justement de se détacher des idoles, quelles qu'elles soient, et d'adorer un Dieu que l'on nomme pas, un Dieu que l'on ne voit pas, un Dieu que l'on ne touche pas, donc un Dieu qui échappe au sens, hein, et qui est donc, ce qui est donc déjà un exploit, hein, dans la mesure où, par définition, nous sommes des êtres sensibles qui avons besoin de toucher, de voir, d'entendre. Eh bien, ce que propose Moïse, à la fois, va permettre à Freud de fonder ce qu'il appelle, lui, la dignité, sur deux caractéristiques de cet homme Moïse, que, selon lui, cet homme, précisément, cet homme au départ du monothéisme juif, du monothéisme primordial, ce monothéisme qu'il a fondé, cet homme va proposer l'altérité et la singularité de chaque homme comme fondement de la dignité. Et si vous lisez l'homme Moïse, vous comprendrez que l'altérité de Moïse pour Freud, c'est de montrer dans son texte que Moïse n'est pas un juif, mais un égyptien. ce qui est un véritable coup de force, parce que, évidemment, ça n'a pas forcément plu aux Juifs, hein, qu'on leur arrache. D'ailleurs, Freud le dit dans une très belle phrase au tout début de son livre, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour lui, lui-même juif, hein, et fils de ce peuple, d'arracher, là aussi on retrouve le terme arracher, d'arracher à ce peuple son grand homme, pour dire à ce peuple, votre grand homme, vous avez raison de l'admirer, mais sachez qu'il est d'autant plus grand qu'il n'est pas issu de votre chair et de votre sang. Il est issu d'un autre peuple. Bon, ça c'est bien sûr la mise en jeu de l'altérité. L'altérité, c'est aussi une forme de reconnaissance de soi-même. Dans ce rapport de soi à soi, il est tout à fait important de reconnaître qu'il y a de l'autre en soi, qu'il y a de l'étranger en soi. Et justement, de prendre conscience de cette étrangeté que l'on peut appeler l'inconscient. Et puis, la deuxième notion que Freud extrait de sa lecture, de son interprétation de l'homme Moïse, c'est la singularité de cet homme. De cet homme qui s'avance seul et qui va se choisir un peuple, qui va choisir les Hébreux comme les porteurs de ce qu'il propose, de ce qu'il leur propose comme éthique religieuse. Puisque, à cette époque, bien sûr, le grand véhicule de toutes les valeurs, c'était la religion. Nous ne sommes pas dans une période scientifique. Altérité, singularité, ce sont de véritables conquêtes psychiques. Freud insiste beaucoup, ça n'a rien d'évident, ce sont des conquêtes qui s'arrachent et qui doivent constamment être remises au travail. Rien n'est jamais gagné. Et d'ailleurs, par rapport à Eti, Freud a une métaphore tout à fait étonnante. Il dit, dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse, il dit que cette conquête de l'esprit implique quelque chose qui ressemble au travail des Hollandais qui, avec les polders, jour après jour, doivent reconquérir leurs terres sur la mer, puisque la mer, régulièrement, vient inonder les terres et que les terres doivent être reconquises sur la mer. Et il utilise cette métaphore ô combien hollandaise pour rendre explicite le travail psychique qui est un travail de reconquête et donc un travail incessant qui dure toute une vie. Ceci pour arriver à quoi ? Il nous reste très peu de temps, juste une conclusion. Ceci pour arriver à quoi ? Eh bien, pour arriver à non seulement vous donner envie de lire Eti et d'aller entendre Eti avec Valentine et Peggy, mais aussi de prendre en compte le fait que c'est une bataille qui commence, dans laquelle nous sommes tous engagés. Hein. Et finalement, c'est un bel enjeu. On peut pleurnicher sur le fait qu'il n'y a plus d'idéaux, qu'il n'y a plus de valeurs. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que nous sommes engagés dans une très belle bataille, compliqué, difficile, qui implique chacun de nous, qui ne repose pas sur une délégation, mais sur notre responsabilité à nous, à chacun d'entre nous, et qui a pour enjeu, bien sûr, l'altérité, la singularité, la dignité, mais aussi la souveraineté de l'humain. La souveraineté de l'humain, c'est peut-être ce que nous avons à inventer.
Oh.
Merci. Ah non, alléluia.
Alléluia. Ouais. En tout cas, je vous, oui, alléluia. Moi, je vous convie vraiment à venir avec nous voyager à la boîte à jouer du 10 avril au 4 mai, parce que, en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Enfin, l'ensemble des solos, quatuors et même Eti, c'est vraiment dans cette idée de quoi s'agit-il sur la Terre pour nous aujourd'hui. Enfin, voilà, comme petit point de rencontre.
Juste une dernière phrase qui ne sera pas, pour le coup, je vais lire quelque chose à mon tour, qui ne sera pas de moi, mais qui sera d'Eti. C'est un passage d'une lettre, c'est très court. Elle dit ceci, et je pense que c'est vraiment ce qui nous concerne aujourd'hui. Elle écrit ceci. « Si nous ne sauvons des camps, où qu'ils se trouvent, que notre peau et rien d'autre, cela ne suffira pas. Ce qui importe, en effet, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais la façon de rester en vie.